En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une fiction. C'est-à-dire que il y a évidemment quelques éléments que j'ai empruntés. Je vivais des choses dans mon travail qui me servaient pour le roman. Et je faisais des recherches pour le roman qui me servaient dans le travail.
RTL.
Bien sûr, un écrivain, il donne toujours un petit peu de lui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fiction.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dubaï, c'est une ville qui fascine, une oasis de modernité, poussée en plein désert, une cité dont la population a été multipliée par 4 en 20 ans. On vous emmène visiter la capitale des Émirats Arabes Unis avec notre invité Olivier Auroy. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, ça y est, vous devenez un sociétaire de la curiosité.
Tout à fait.
Hein, vous avez votre ronde serviette.
On est ravis de vous retrouver. Vous publiez, on l'a compris, un roman, Les meilleures intentions du monde, c'est aux éditions Intervalle. Le personnage principal de ce roman, on peut dire d'une certaine façon que c'est Dubaï. Roman que vous signez d'un pseudo, Gabriel Malika. Pourquoi ce nom d'emprunt ?
Parce qu'en fait, à l'époque, je l'ai écrit en 2011, j'avais peur d'être inquiété pour ce roman. Et puis aussi parce que moi j'avais des clients, hein, je travaillais dans la communication et le design. Et en fait, les clients n'aiment pas le mélange des genres. Ça aurait été préjudiciable pour moi que le client il google Olivier Auroy et il tombe sur un roman qui parle des femmes en Orient, des mariages mixtes. Donc j'ai préféré prendre le pseudonyme de Malika, qui en arabe veut dire la reine est au roi. Voilà l'astuce.
Olivier Auroy, on a bien compris. Vous avez travaillé pendant combien de temps à Dubaï ?
10 ans.
Donc vous connaissez bien cette ville ?
Je connais très bien cette ville, parce qu'en plus moi je suis arrivé avant l'érection par exemple de la grande tour, le Burj Khalifa, avant que vraiment Dubaï rentre dans l'ère moderne. Donc je l'ai vu vraiment grandir, et surtout j'ai traversé la crise, qui a été une crise de maturité en fait.
Olivier Auroy, on parle souvent de Dubaï dans les médias et quand on en parle, on associe toujours cette ville au mot démesure. C'est vrai que tout y est excès là-bas, démesuré.
Il y a beaucoup d'excès, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes qui se battent avec des panthères dans leur voiture, des 4x4 en or, tout ça. Tout est très très grand. Alors qu'à Paris, quand on est dans un restaurant, on est en général à 20 cm de son voisin et on entend la conversation d'à côté. À Dubaï, il y a 200 mètres, hein, j'exagère à peine, entre les tables. Tout est très grand, tout est très vaste et ils font tout grand. On y reviendra, l'aéroport de Dubaï, il y en a 2 là, c'est absolument incroyable.
C'est le plus grand aéroport du monde.
Oui, c'est le plus grand du monde. Donc c'est vrai. Après, moi je trouve qu'ils en ont un peu trop rajouté.
C'est une recherche de la démesure au quotidien,
c'est
ça ?
C'est parce qu'en fait, dès le départ, ils voulaient faire des records. C'est une tactique de relations publiques, de RP. Hein. Ils voulaient faire des records pour se faire repérer.
Donc la tour la plus haute.
La tour la plus haute, l'île artificielle la plus grande du monde, l'hôtel le plus haut, le Burj Al Arab en forme de voile, avec vue sur la mer. En fait,
l'aquarium le plus grand du monde.
L'aquarium le plus grand du monde.
C'est impressionnant, ça ?
Ah, c'est absolument extraordinaire. Il y a des endroits de Dubaï dans des hôtels où on est en train de dîner, puis vous mangez vos sushis avec à droite un requin qui se balade. Non, ça fait vivre des moments un peu particuliers.
Le supermarché le plus grand du monde aussi, il faut 7 jours pour le visiter.
Ah, le Dubaï Mall. Le Dubaï Mall qui est en fait c'est le plus grand shopping mall.
Ouais. Ouais.
Si j'osais, je dirais c'est un peu la Mecque du shopping. Et d'ailleurs, et c'est intéressant parce que dans la Mecque du shopping, on retrouve toutes les religions, toutes les nationalités. Ça, c'est intéressant.
Alors justement, là, on vient de faire la liste de ce que l'on entend le plus souvent dans les médias associés à Dubaï. À l'inverse, que ne dit-on jamais de Dubaï, Olivier Auroy, et qui mériterait d'être connu des auditeurs d'RTL ?
Ce qu'on dit jamais, en fait, c'est que Dubaï est un petit peu ce que fut dans le passé des villes comme Beyrouth. C'est-à-dire, c'est un peu le poumon de l'Orient et du Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est là où les avoirs financiers des Saoudiens et des Iraniens vont. C'est là où les familles syriennes, palestiniennes, irakiennes se réfugient ou prennent une deuxième maison parce que leur famille est éclatée. C'est là aussi où on rencontre vraiment ce que c'est que la mondialisation et la globalisation. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à Dubaï en me disant, il va falloir que j'apprenne l'arabe. Non, non, non. Il a fallu que j'apprenne l'anglais, que je comprenne les accents des Sud-Africains, des Australiens. Il a fallu que je comprenne qui c'était Manny Pacquiao, le champion de boxe philippin. Qui c'était les stars de Bollywood à cause du cinéma indien, comprendre l'histoire du Pakistan, parce qu'avec le business, je voyageais beaucoup. Donc en fait, pour le festival de littérature de Dubaï, j'avais accueilli Catherine Pancol, j'ai passé une journée avec elle, et elle m'a dit, mais il faut le dire. Il faut dire que cette ville, c'est le Blade Runner, c'est le Blade Runner en fait.
C'est la Tour de Babel.
La Tour de Babel, le premier exemple qu'on a d'une ville du 21e siècle globale.
Réussie, donc c'est une mondialisation réussie à Dubaï, c'est ce que vous nous dites ?
Moi je pense que c'est réussi parce que, pourquoi ? Quand vous allez le vendredi à Safa Park, qui est l'équivalent du Luxembourg, on va dire, à Dubaï, là vous avez toutes les nationalités qui se rencontrent dans leur tenue. On me dit, ah bah oui, mais c'est comme à Londres, à Paris. Non, là, vous avez le Soudanais, il est en Soudanais, et tout le monde, et ça joue au foot, et ça partage les brochettes, hein, c'est les Nations Unies du kebab, et tout se passe, et tout se passe très bien. Ouais. Moi, et on est en terre d'islam. C'est-à-dire que tout ça se fait avec en fond le muezzin qui chante. Et...
Qu'est-ce qui réunit ces, je ne sais pas combien, 100, 120, 130, 140 nationalités différentes à Dubaï?
C'est vraiment le business. Ouais. Cheikh Mohammed, dont on reviendra, hein, qui est le monarque éclairé, dit, ce qui est bon pour le business, c'est bon pour Dubaï, ce qui est bon pour Dubaï est bon pour le business. Dès qu'il y a eu un tantinet, un petit problème politique, il est intervenu, comme dans les 70, il y avait eu des bagarres de rue entre les Indiens et les Pakistanais à cause de la guerre. Cheikh Mohammed les a tous virés en disant, attendez, Dubaï, c'est pas ça. On ne fait pas de politique et on ne fait pas de religion au sens où on le voit de nos jours. Pas du tout. Ils le font de façon très subtile. Il dit, ici, c'est business. Je veux que tout le monde soit en sécurité, je veux que tout le monde prospère. Et ça marche.
Dubaï, c'est aussi une ville en avance sur son temps en matière de technologie, par exemple.
Elle est en avance sur son temps pour la région. Hein. C'est la première ville de toute la région qui a un métro aérien absolument extraordinaire. Alors pour les aéroports, ils sont carrément en avance sur le monde entier, il faut le dire. Mais je pense qu'ils vont rattraper leur retard très très vite. Parce que contrairement à nous, eux, ils commencent de zéro. Donc ils peuvent déployer dès le début le meilleur des technologies avec le meilleur des techniciens.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Tout le monde change, le monde change à Dubaï.
Et oui, on vous emmène à Dubaï. Dubaï et ses 2 millions d'habitants, son aéroport international, ses immeubles, ses buildings absolument mythiques. Notre guide s'appelle Olivier Auroy. Je rappelle que vous travaillez pour une agence de design et que vous avez vécu 10 ans à Dubaï. Vous nous resituez sur une carte, Dubaï?
Alors ça, c'est important. Dubaï, c'est sur le détroit d'Ormuz. C'est en face de l'Iran. C'est-à-dire que si, où j'habitais, si je prenais une petite barque, en 2h30, j'atteignais les côtes de l'Iran. Voilà. Et au sud, il y a l'Arabie Saoudite, il y a Oman. Un peu plus au nord, si on va vers le nord, ensuite on va vers l'Égypte, etc. Donc, mais il faut vraiment se rappeler de ça, c'est sur les trois d'Ormuz.
Et c'est on dit les Émirats arabes unis.
Les Émirats arabes unis.
C'est quoi? C'est une réunion de
sept Émirats, ouais. Dont la capitale, c'est Abu Dhabi.
Ah oui, c'est pas voilà. Dubaï, contrairement à ce que j'ai dit.
Il y a l'Émirat d'Abu Dhabi, il y a Dubaï, après vous en avez d'autres, hein, Sharjah, Fujairah, Al-Qaïm, etc., etc.
D'accord.
Il y a des immeubles absolument impressionnants, on les a tous dans la rétine, hein, ces immeubles de Dubaï. Et l'un d'eux a brûlé, c'était le 31 décembre dernier. Que s'est-il passé? C'était en plein feu d'artifice de la Saint-Sylvestre.
On ne sait pas trop. À Dubaï, on ne sait jamais d'ailleurs. Hein. Les explications ne filtrent pas. On pense que ça peut être une malveillance ou alors une négligence. J'ai entendu une thèse disant que vous savez, il y a beaucoup de chicha là-bas et que ce serait de la braise de chicha qui aurait, les gens étant concentrés sur le feu d'artifice, hein, qui aurait démarré le feu en fait.
Cet incendie vous a étonné, Olivier Auroy?
Non, mais il y en avait déjà eu un il y a un an, il y a un building qui avait pris feu près de la marina. C'est une ville qui s'est construite très très vite, trop trop vite. Et quand on construit vite, on fait des bêtises et donc forcément il y a des choses qui craquent.
Mais il y a eu peu de blessés, 16 blessés légers.
Très légers.
Ils sont très forts pour évacuer leurs immeubles.
Pour évacuer, vous l'évoquiez pendant la pause, ils ont des systèmes d'évacuation qui marchent très très bien. Des pompiers qui sont impressionnants, des gros camions. Non, en général, ils sont plutôt bons pour évacuer les blessés.
Cet immeuble qui a brûlé le 31 décembre, il est situé non loin de la tour Burj Khalifa. Sert de décor à la couverture de votre roman Les meilleures intentions.
Alors, sur ma couverture, c'est le Burj Al Arab.
Ah, pardon, je me suis trompé.
Il y a deux Bourges.
Ah, bah oui, non, mais vous êtes beaucoup plus pointu que moi. Mais ce qui est drôle sur cette couverture, donc, ce livre publié chez Interval, c'est que, premier regard, on se dit, ah bah c'est la vraie. Et puis, non, en fait, c'est un pâté de sable. Ouais. C'est symbolique, évidemment. Elles sont fragiles comme l'économie du pays.
En fait, c'est une métaphore pour exprimer la fragilité de l'économie du pays. Pourquoi? Parce que l'économie n'est plus liée au pétrole, mais à la promotion immobilière. En fait, la bulle immobilière régulièrement craque. Donc en 2008, elle a craqué et tout s'est écroulé. Et c'était voilà, comme un château de sable. Et c'était un petit peu pour... ce roman, en fait, Les meilleures intentions du monde, est une métaphore de la crise immobilière qui a touché Dubaï et qui ne l'a pas abattu. Parce que tous les journalistes étaient jetés à l'époque, m'avaient interrogé en disant « Alors c'est fini Dubaï ?» Je dis « Non, vous n'avez rien compris. » Elle a juste toussé. Mais c'est loin d'être fini. Il y a trop d'argent en jeu.
Alors, on va continuer de parler là de ce secteur immobilier donc, qui tient Dubaï, c'est ce que vous nous expliquez, avec d'abord la question de la main-d'œuvre étrangère.
Oui.
Elle vient d'où, cette main-d'œuvre étrangère?
Alors, en fait, les pays du Golfe se sont répartis la main-d'œuvre pauvre. Donc, Dubaï, eux, ils ont récupéré les Indiens et les Pakistanais. Alors que, par exemple, au Qatar, c'est les Népalais. Donc, vous avez une forte communauté indienne-pakistanaise. Ils ont des baraquements qui sont en dehors de la ville. Dubaï est le pays du Golfe qui a fait le plus d'efforts. Pourquoi ? Peut-être pour des raisons un peu cyniques, c'est que si jamais il y a des rapports, de Human Watch, etc., qui disent les ouvriers sont maltraités, ça affecte Dubaï, donc ça affecte le tourisme. Donc Dubaï a compris qu'il fallait qu'ils fassent des efforts pour traiter les ouvriers, parce que sinon ça nuisait à leur image.
Leurs passeports sont confisqués à ces ouvriers ?
Ça, c'est de moins en moins le cas, mais il y a encore des pays du Golfe où c'est le cas. On leur confisque leurs passeports pour les empêcher de partir ou de...
Et ces ouvriers à Dubaï, est-ce qu'ils peuvent aller, venir, avoir
oui,
une vie
ils peuvent aller, venir, ils peuvent avoir une vie relativement normale, ce qui est encore une fois pas le cas dans d'autres pays comme le Qatar.
Mais dans votre roman, vous racontez des scènes absolument horribles. Il y a toujours une corde à nœud dans le bureau des chefs de chantier.
Oui, il y avait toujours.
Oui, il y avait.
Ça, ouais. Ça, c'était encore, je pense que c'est fini, mais il y a encore 10 ans, c'est ce qu'on m'a raconté de façon répétée, c'est qu'il y avait une corde à nœud dans les tours. Pourquoi ? Parce que quand il y en avait un qui mourait de déshydratation, on le pendait pour faire croire à un suicide. Parce que s'il ne se suicide pas, il faut que l'assurance paye. C'est-à-dire que s'il est mort de déshydratation, c'est la responsabilité de l'entreprise qui doit payer l'assurance. Alors que s'il se pend, c'est un suicide et là, l'assurance n'y peut rien.
Et ceux qui mouraient en tombant, par exemple, ils étaient emmurés.
Alors, on m'a raconté ça, je veux bien le croire, pareil, c'était à une époque où c'était un peu
sauvage. Vous écrivez un roman, donc
oui,
il y a peut-être
une
part de fiction, bien sûr.
Et comme dans toutes les fictions, on en rajoute un petit peu. Oui. Mais je pense que ça a dû exister vraiment au début, où il fallait aller vite et on n'était pas très regardant.
Ça veut dire que ça n'existe plus aujourd'hui,
non,
à cause de cette question d'image dont vous parliez, mais que cette prospérité immobilière de Dubaï, elle s'est quand même faite aussi... sur le dos, c'est le cas de le dire, l'image n'est pas là par hasard, des travailleurs étrangers.
Mais il y a tout un chapitre à ça, où il y a un ingénieur français qui parle avec des gens de Dubaï. Moi, quand j'en parlais avec lui, il me disait, vous les avez comptés, vous, les morts de Notre-Dame de Paris ou pas?
Pas
mais,
faux.
Et c'était ça le débat, sauf que moi je disais, oui d'accord, mais c'était il y a combien de siècles? et eux, ils disent...
Surtout dans un pays qui se targue d'être
en avance
dans la région. Ouais.
Et eux, ils disaient toujours, laissez-nous le temps. Et ils disaient aussi, il faut comprendre que nous, on n'a pas d'histoire, on fait l'histoire chaque jour.
Olivier Aura, vous dites dans votre roman consacré à Dubaï qu'il y a 25 ans, les entrepreneurs avaient un rêve pour leur ville. Est-ce qu'ils l'ont réalisé ?
Ah, je pense que oui. Alors, en fait, l'anecdote, c'est que dans les années 70, le père de Sheikh Mohamed, Rachid, il a réuni toutes les grandes familles. Il a dit, j'ai une idée. On a de la mer, on a du soleil, on est au centre du monde. On va créer une ville de nulle part. Est-ce que vous êtes prêts à investir pour construire des tours et commencer à développer le tourisme ? Il y a la moitié des familles qui ont dit, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi. Et il y a l'autre moitié qui a dit, ok. Ceux qui ont dit ok, ils sont milliardaires. Hein. C'est Al Futtaim, Al Nabouda, Al Rostamani, toutes les grandes familles de Dubaï. Les autres, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire que les familles ont accepté d'investir avec le chèque pour faire Dubaï, avec la réussite qu'on connaît.
Et les autres ont fini par perdre l'argent du pétrole,
c'est ça ? Les autres, ils sont beaucoup plus discrets, parce qu'il y a aussi une question de perdre la face, de honte, ce qui n'est pas le cas des premières familles, qui sont richissimes.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut. La curiosité est un vilain défaut.
On pense de Dubaï que c'est un endroit où on reste pendant 2-3 ans pour faire du business, pour faire de l'argent. Ce qui était sans doute vrai au moment du boom. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui restent pour s'y établir. Moi qui voyage beaucoup dans tous les pays du Golfe, on a tendance à oublier ce qui fait l'avantage de Dubaï. Je voulais redire pourquoi cette ville avait eu tant de succès et que ce succès allait perdurer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On visite Dubaï dans la curiosité, on chasse les idées reçues. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de notre invité Olivier Auroi, qui sous le pseudo Gabriel Malika publie Les meilleures intentions du monde chez Interval, roman à clé sur Dubaï. Vous y avez vécu 10 ans, on parlait d'une ville de compromis, ville musulmane évidemment, mais où on peut boire de l'alcool.
Absolument. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai des collègues qui vont à Dubaï, qu'est-ce qui va se passer ? Mais je dis, il va rien se passer du tout. On peut boire de l'alcool dans les hôtels, chez soi. L'important de Dubaï, c'est de ne pas boire d'alcool sur la voie publique et surtout de ne pas faire d'accident en état d'ébriété. Le consulat de France le sait. Le record, c'était pendant la demi-finale de la Coupe du Monde en 2006. Il y a tous les Français qui ont pris la route qui est le long de la mer complètement éméchée. Le consulat a beaucoup bossé.
Voilà. Pour qu'il ne passe pas de longues nuits.
Trop
dans les geôles,
trop de semaines dans les geôles de Dubaï. Ouais. Donc il faut pas, et c'est comme on peut pas embrasser à pleine bouche sa copine ou sa femme en pleine rue.
Mais on peut draguer.
Il faut être discret. Alors on peut draguer. Les techniques de drague sont très sophistiquées parce que c'est très discret. Alors c'est vraiment le pays de iPhone dans la main gauche, le Coran dans la main droite. L'iPhone, il y a des applications qui permettent de draguer. Moi, il y a une technique que j'adore qui est sur la route principale. Vous avez les Emiratis qui qui est dans son 4x4. Il s'approche du feu, il a remarqué du feu rouge, il a remarqué une jeune femme émiratie dans l'autre voiture, et avec son accélérateur, il fait vouf, vouf, comme un pigeon. Et il y a l'émiratie qui fait vouf, vouf, et c'est extraordinaire. Et prochain feu, pareil. Et puis après, ils se contactent.
Mais
et
ça,
puis
ça il y a Bluetooth. Via le téléphone.
Ah bah ça se fait, ils sont comme ça, et après ils se contactent par Bluetooth. Ouais.
Les femmes sont souvent draguées.
Les femmes sont souvent draguées. Mais moi, j'ai vu plus souvent des hommes émiratis avec des femmes occidentales que l'inverse. Hein. L'inverse, j'ai deux copains qui s'y sont cassés les dents. J'ai un copain à Jeddah en Arabie Saoudite et un autre à Dubaï avec une Jordanienne. Ça n'a pas fonctionné parce que vous avez la famille sur le dos, vous avez les frères sur le dos. Mmh. Bah, ça rigole pas.
Est-ce que c'est vrai que la marque de lingerie Victoria's Secret cartonne à Dubaï ?
Elle cartonne. Bah, on en a eu l'expérience avec mon épouse, on était à un mariage émirati. Moi, j'ai été avec les hommes, ça se passe comme ça, hein, au 6e étage de l'hôtel. On a passé 3 heures à se regarder, à boire du jus d'orange, du champomy, c'était pas génial. En revanche, ma femme, elle était au 3e étage, elle m'a dit « tu n'auras jamais idée de ce que j'ai vu ».
C'est-à-dire,
elle a vu des femmes qui, sous la baïa, c'était une jungle, quoi. C'était un festival de tenues complètement affriolantes, avec du mascara partout. Elles se sont complètement éclatées.
Quoi. Qu'entre elles se montrent leur corps, des corps avec des sous-vêtements.
Elles sont incroyables. Ouais.
Vous avez assisté, alors peut-être que c'est la fiction du roman Les meilleures intentions du monde, à un défilé de mode où on vous donne presque des conseils pour draguer malgré le voile, c'est ça ?
Alors, j'ai assisté effectivement à des défilés de mode, mais c'est après en coulisses, j'en ai un peu rajouté dans le roman, ouais. C'est un peu en coulisses après qu'on m'a expliqué oui, les techniques de drague. Il y a beaucoup de choses qui se font avec les mains. C'est-à-dire que quand on salue une femme émiratie, pour pas se tromper, on met la main sur le cœur, parce qu'elle ne peut pas accepter de vous prendre la main. Mais moi, je me souviens, la première semaine, dans réunion de bureau, j'ai cette jeune femme avec un abaya légèrement ouverte sur le chemisier, avec les cheveux qui ondulaient, comme ça, les petites boucles, les yeux de biche, enfin bref. Elle me serre la main et elle me retient un peu les doigts comme ça, très lentement. Et là, je me suis dit, oh là.
Attention.
Alors là, c'est pas ce que j'attendais.
Voilà, son frère est patibulaire, mais
alors,
presque, donc attention danger.
Ah bah là, c'est le signe, tu m'intéresses, parlons, mais ça ne se fait pas
vous
ouvertement.
Vous n'avez jamais fait ça avec un garçon,
Sidon ? Non. La petite retenue de l'index, non, non, franchement.
Mais on dit Dubaï, ville de compromis, Olivier Auroy. Ça veut dire quoi, par exemple, sur les imams radicaux, ils n'ont pas le droit de citer, ou alors il y a une mosquée où ils peuvent
prêcher. Cheikh Mohamed les a dégagés. Hein,
donc le grand patron de la ville.
Ah bah le grand patron, il a dit, à partir du moment où on s'ouvre à l'étranger, il faut qu'on tolère un certain nombre de choses. Les étrangers ont besoin de se divertir, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de voir des femmes, d'où la prostitution d'ailleurs, autorisée tacitement à Dubaï. Et il a dit, les prêches radicaux, j'en veux pas.
Mais les autres religions sont
alors,
tolérées.
Il y a l'église Sainte-Marie, qui est un des diocèses les plus riches du monde, parce que faut imaginer sur 2 millions, je sais pas, il doit y avoir genre des milliers, centaines de milliers de catholiques qui donnent leurs sous à Sainte-Marie. Et la légende, je pense savoir où c'est, dit qu'il y a une synagogue à Dubaï, planqué pour certains VIP, ce qui en ferait quasiment la première synagogue du coin, quand même, de la région.
D'un mot, l'Expo universelle qui doit se tenir en 2020 là-bas, qu'est-ce qu'on y verra ? Ça va être forcément gigantesque.
Ça va être gigantesque, mais je pense aussi que ça va être fascinant. Je pense que le monde va enfin découvrir ce qu'est Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, dans la compétition que se livrent les pays arabes, c'est l'année où Dubaï va mettre un taquet au Qatar. Avant la Coupe du Monde.
Deux
de
ans
foot.
Avant la Coupe du Monde
mais,
de foot. Ouais.
Auquel je ne crois pas non, mais ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire que eux, le monde va se dire, mais c'est fou quoi. C'est une ville ultra moderne, on y est très bien accueilli, le monde entier y est. Et ça va être un côté un peu United Colors of Benetton en terre arabe.
Bon, on va suivre le match, Olivier Auroy.
Merci beaucoup Olivier Auroy. Les meilleures intentions du monde, c'est donc ce roman que vous aviez publié sous le pseudo de Gabriel Malika, c'est publié aux éditions Intervalle avec donc la tour de
Burj Al Arab
en couverture. Et puis vous publiez là, en ce moment, un autre roman sous votre vrai nom, Olivier Auroy, ouais, au nom d'Alexandre chez Intervalle. Là, il est question de marque aussi.
Alors, au nom d'Alexandre, ça vous rappelle une émission qu'on a fait ensemble. C'est l'histoire d'un homme qui a un métier qui n'a pas de nom et il crée des noms.
Créateur.
Sauf peut-être le plus essentiel, et c'est ce que le livre révèle.
C'est la fin de la curiosité du samedi. Mais heureusement, on se retrouve demain de 14 à 15h avec au programme
chouette.
Thomas.
Alors, au programme, l'histoire des drones et puis l'épopée des Verts de Saint-Étienne, printemps 1976.
Et dans un instant, en place à Éric Jean-Jean qui reçoit dans son grand studio Frérot de la Vega.
Des saisons, photomaton, le matin.
m'abandonne. Bon, l'après-midi va être formidable, forcément, à l'écoute d'RTL. Allez, salut, à demain. RTL.